Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinne L, un programme Maurice Clément Fèvre. Il y a un nouveau thème abordé par le peintre dans ses années 80, c'est celui des femmes à leurs ablutions. D'ailleurs, il va en présenter la dernière exposition des impressionnistes de 1886. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Hilaire Germain Edgar Degas.
Souvenir.
En 1884, Degas renoue ses relations commerciales avec Durand-Ruel, après une pause de 8 mois. Eugène Manet, époux de Berthe Morisot, donne à Edgar une toile de son frère Édouard. Départ du bateau Folkestone lors de la succession. Le peintre, très touché, lui répond.
« Vous avez voulu me faire un grand plaisir et vous y avez réussi. Il y a même dans votre cadeau plusieurs intentions dont vous me permettrez de sentir profondément la délicatesse. »
À l'occasion de la vente de l'atelier de Manet, les 4-5 février 84, Degas demande à Durand-Ruel de lui acquérir 3 œuvres. La sortie de bain, portrait de H. Vigneault et la barricade. En août, il rend visite au Val-Pinçon et en profite pour sculpter un buste d'Hortense en terre glaise et petits cailloux. Mais Degas n'a pas le moral. Découragé, il écrit à Bartholomé le 16 août.
« Oui, je deviens ingrat et je le deviens dans un état comateux qui rend ce mal sans remède. Est-ce la campagne? Est-ce le poids de mes 50 ans qui me rend aussi lourd, aussi dégoûté que je suis? On me trouve gai parce que je souris bêtement d'une façon résignée. Ah! Où est-il le temps où je me croyais fort, où j'étais plein de logique, plein de projets? Je vais descendre bien vite à la pente et rouler je ne sais où, enveloppé dans beaucoup de mauvais pastels comme du papier d'emballage. »
Degas n'a pas le courage de rentrer chez lui et ne retrouve son atelier que fin octobre, avant de rendre visite à ses amis à Lévis, à Dieppe. Néanmoins, il retourne parfois à Paris, notamment pour l'enterrement de Giuseppe Donitis, décédé le 21 août 1984. De retour, au Mini-Lubert, il écrit à Durand-Ruel.
« Ma bonne ira vous chercher un peu d'argent. Elle m'envoie ce matin une menace de saisie des contributions. Il paraît que l'État veut de suite le reste. Ah, je vais vous bourrer de mes produits cet hiver et vous me bourrerez de votre côté d'argent. C'est trop embêtant et humiliant de courir après la pièce de 100 sous comme je le fais. »
C'est ainsi que Degas parle de sa peinture, d'articles, de produits, jamais de tableaux. Il est toujours englué dans les dettes familiales à rembourser. De son côté, Durand-Ruel doit se relever des secousses du crash financier de 82. Le 29 novembre, il achète Danseuse et Harlequin, qu'il revend le 24 décembre, 4000 francs à l'Eurole. En 1885, Edgar perd son oncle Michel Musson. Il participe aussi au banquet marquant le premier anniversaire de la rétrospective d'Édouard Manet à l'École des Beaux-Arts.
Une série surprenante.
L'artiste vient de débuter ses premières études de femmes à leur toilette. Pendant près de 20 ans, il va brosser la femme dans son intimité, qu'elle se baigne, se lave, se sèche ou se coiffe. Nous sommes bien loin du nu académique. Degas la surprend à son insu et la saisit sur le vif, dans des poses non conventionnelles, plutôt animales, accroupie dans sa large cuvette, par exemple. Il avoue à l'écrivain Georges Moore en lui montrant ses nus.
« C'est la bête humaine qui s'occupe d'elle-même. Une chatte qui se lèche, jusqu'à présent, le nu avait toujours été représenté dans des attitudes qui supposent un public. Mais mes femmes sont des personnes simples et honnêtes qui ne s'occupent de rien d'autre. Je les montre sans coquetterie à l'état de bête qui se nettoie. »
Ainsi, il nous laisse vers 83, femme dans son bain s'épongeant la jambe, à Orsay. Après le bain, pastel collection privée, femme se coiffant, monotype au Louvre. Puis, danseuse nue se tenant la tête, fusain et pastel sur papier bleu vert à Orsay.
Vague à l'âme.
Au cours des années à venir, le peintre va se vouer davantage à la gravure, la sculpture et la photographie. Ses troubles de la vue s'accentuant, il va délaisser progressivement la peinture à l'huile pour le pastel et ensuite la sculpture. D'ailleurs, conscient de son infirmité à venir, il confesse.
Il faut que j'apprenne un métier d'aveugle.
Il ne supporte plus la lumière éblouissante et a du mal à retrouver sa vision. Le moral n'est pas des meilleurs aussi. et il a tendance au repli sur soi.
Si vous étiez célibataire et âgé de 50 ans, vous auriez de ces moments-là où l'on se ferme comme une porte. On supprime tout autour de soi, et une fois tout seul, on s'annihile, on se tue enfin par dégoût. J'ai fait trop de projets, me voici bloqué, impuissant. J'entassais tous mes plans dans une armoire dont je portais toujours la clé sur moi, et j'ai perdu cette clé.
Degas fréquente assez assidûment l'opéra. En février, il est à la Favorite de Donizetti. En mars-avril, il va écouter Rigoletto de Verdi, Faust de Gounod, Hamlet. Il continue ses ventes à Durand-Ruel, non sans provoquer des jalousies. Eugène Manet se plaint à sa femme qu'Edgar a sa place à l'opéra, qu'il cède ses tableaux fort chers, mais qu'il n'a pas réglé ses dettes envers Jean-Baptiste Faure. Par ailleurs, Gauguin se plaint à Pissarro dans une lettre sur les prestations de certains peintres, comme le notait déjà Caillebotte.
La conduite de Degas devient de plus en plus absurde. Croyez-le bien, Degas a beaucoup nui à notre mouvement. Vous verrez Degas finir ses jours plus malheureux que les autres, froissé dans sa vanité de ne pas être le seul et le premier.
En juin 85, a lieu l'exposition des œuvres impressionnistes à Bruxelles par Durand-Ruel. Trois pastels de Degas sont alors vendus. Durant l'été, il assiste à plusieurs représentations de l'opéra. Sigurd de Reyer, joué par la diva Rose Caron. À ce propos, il écrit à Bartholomé.
Divine Madame Caron, je lui ai comparé, parlant de sa personne, les figures de Puvis de Chavannes qu'elle ignorait.
Il en profite pour immortaliser sur éventail un pastel, scène de ballet à l'opéra. À la fin août, il cède à Durand-Ruel 800 francs, ballet de Robert le Diable. C'est son dernier tableau au marchand d'art, avant une interruption d'un an.
Escapade normande.
Edgar se rend une fois de plus en Normandie, chez son ami à Lévis, à Dieppe. C'est une station balnéaire à la mode, où se retrouvent peintres, musiciens et écrivains français et britanniques. Il y croise Walter Sickert, un jeune peintre anglais que Whistler lui a déjà présenté. Degas en profite pour rencontrer à Offranville Jacques-Émile Blanche, peintre romancier et critique d'art. Dans son atelier, il croque ses amis au pastel. Walter Sickert, Daniel et Ludovic à Lévis, Jacques-Émile Blanche, Henri Gervex et Albert Boulanger-Cavé, qui fut à un moment directeur du journal La Censure. Il peint, mais aussi s'amuse à se faire photographier par Barnes. Il met en scène à sa manière l'apothéose d'Homère d'Ingres, en donnant des ordres, disposant ses amis, changeant les lampes de place. Personne n'ose alors le contredire. Assis sur les marches, il parodie le poète aveugle, entouré de trois muses le couronnant. À ses pieds, les deux enfants à Lévis prient. Puis, Edgar continue son voyage vers le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo. Auparavant, il a aperçu fortuitement Gauguin à Dieppe, qui évite la communauté des peintres. Ce dernier écrit à sa femme de vendre un dessin de Degas, car il cote bien. Edgar finit l'année à l'opéra, avant de se rendre en janvier 86 à Naples pour liquider les affaires familiales. Auparavant, il s'arrête à Genève voir son frère Achille. L'artiste souhaite vendre sa part des biens italiens à Lucie, sa cousine qui atteint sa majorité.
« Je ne suis plus rien ici qu'un Français gênant. La famille s'en va. »
écrit-il à Bartholomé de Naples. Éternel insatisfait de la vie, taciturne, maussade, il continue ainsi.
« Je ne veux plus voir que mon coin et le creuser pieusement. » À part le cœur, il me semble que tout vieillit en moi proportionnellement, et même ce cœur a de l'artificiel. Les danseuses l'ont cousu dans un sac de satin rose un peu fané, comme leurs chaussons de danse. La huitième et ultime manifestation.
De retour à Paris, il assiste de nouveau à la représentation de Sigurd, qu'il écoutera une quarantaine de fois, rien que pour entendre la divine Rose Caron. L'opéra tient une grande place dans sa vie. Il va souvent voir les mêmes œuvres, Rigoletto 15 fois, Coppelia 13 fois, Faust 11 fois, pour n'en citer que quelques-unes. Il continue à brosser les petits rats de l'opéra, comme le groupe de danseuses au tutu bleu, collection privée. Mais il faut penser aussi à la 8e exposition et dernière des impressionnistes. Degas, une fois de plus, impose ses amis, et notamment la date du 15 mai au 15 juin. Les dissensions de plus en plus vives font renoncer Caillebotte, Monet, Renoir, Sisley à y prendre part. À la même période, du 1er mai au 25 mai 86, Durand-Ruel organise sa première exposition en Amérique du Nord à New York. Alexander Cassatt prête la leçon de danse. Une des deux versions du ballet de Robert le Diable, des monotypes et au fort de Degas sont exhibées. À Paris, au 1 rue Lafitte, la 8e manifestation n'a plus rien d'impressionniste. De nouveaux jeunes peintres, tels Paul Signac, Georges Seurat, avec son Dimanche à la Grande Jatte, présentent leurs œuvres avant-gardistes. Pissarro a rejoint Seurat sur la technique pointilliste. D'ailleurs, une salle entière est consacrée au néo-impressionniste, qui s'appuie sur la théorie de la division des couleurs. Degas ne présente que 10 toiles sur les 15 annoncées au catalogue, dont Petite Modiste, Chez la Modiste, Six Amis à Dieppe, et des nus sans titre, suite de nus de femmes se baignant, se lavant, se séchant, s'essuyant, se peignant ou se faisant peigner. Grâce aux critiques, nous savons qu'il s'agit entre autres de femmes au tub, femmes dans un tub, le tub, femmes s'essuyant. Les modistes remportent les compliments, les nus divisent les journalistes, et pour la première fois, le peintre est traité de misogyne. Marie Cassatt expose également. Elle échange quelques semaines après des tableaux avec Edgar. Degas reçoit Études ou Fillette se coiffant, qu'il accroche dans son salon, et Marie, femme au tub. En août, les relations commerciales reprennent avec Durand-Ruel, qui achète 3 œuvres de course pour 800 et 2500 francs. Comme il n'est pas pressé de régler ses achats, il se fait sermonner par Edgar, qui a débuté une collection de tableaux.
« Envoyez-moi, je vous prie cet après-midi, de l'argent. Tâchez de me donner la moitié de la somme chaque fois que je vous livrerai quelque chose. En ce moment, je suis horriblement gêné. C'est pour cela que je tenais un peu à vendre à un autre qu'à vous ce pastel-ci, pour pouvoir garder tout l'argent. »
Suivant les sources, Théo Van Gogh, marchand d'art de la galerie Bousseau-Valadon, posséderait un Degas. Durand-Ruel n'a plus l'exclusivité. Edgar, présent à cette exposition sur 8, soutint le mouvement impressionniste. Il est vrai qu'il imposa ses amis, qui n'avaient pas forcément le talent et l'envergure du groupe, suscitant alors des différends entre eux. Gauguin, qui s'était éloigné un temps de Degas, revient vers lui en novembre, ce qui fait dire à Pissarro dans une lettre à son fils Lucien.
« Curieux, n'est-ce pas, cette bascule d'intérêt ?»
À présent, retournons au musée, découvrir de nouvelles scènes de la vie quotidienne.
Du côté du musée.
Tout d'abord, revenons sur le thème du monde ouvrier, cher au naturaliste Zola, et qui n'échappe pas non plus à Degas, notamment dans la suite des Repasseuses. 4 scènes ont été dépeintes par l'artiste, nous montrant une femme bâillant, une bouteille d'eau à la main, pendant que l'autre repasse avec force. Le musée d'Orsay possède la 3e version. La peinture à l'huile est posée directement sur la toile non apprêtée. En effet, par endroits, ressort la trame du lin. Dans la collection de Paul Durand-Ruel, ce tableau fut acquis en 1891 par Paul Gallimard. Puis, en 1993, il se retrouve chez Michel Manzi, avant d'être la propriété du comte de Camando jusqu'en 1911. Dans le tub à Orsay, les formes sont délimitées par les traits du pastel. Le dessin, c'est la traduction de la formation classique de Degas. La vue plongeante sur le dos féminin et l'étagère écourtée sur la droite sur laquelle reposent cruches et brosses témoignent, une fois encore, de l'influence des estampes japonaises. Huisman's note.
Ici, c'est une rousse boulotte et farcie, courbant l'échine, faisant poindre l'os du sacrum sur les rondeurs tendues des fesses. Elle se rompt à vouloir ramener le bras derrière l'épaule afin de presser l'éponge qui dégouline sur le rachis et clapote le long des reins.
Une autre version du tub est présente au musée de Farmington dans le Connecticut. Notre voyage en terre de couleur se termine pour aujourd'hui sur les ablutions féminines. Je vous invite à nous rencontrer prochainement sur cette même antenne pour d'autres découvertes.